les moches. Hein, c'est qui les moches? C'est des monstres sanguinaires. Ben non. Les Allemands, c'est des gens comme nous. C'est des ouvriers. C'est des instituteurs, comme Constant. C'est des paysans, comme nous.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez.
Una are to vous.
Hey, boy! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Don't go away now.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Le sujet du film doit apparaître dès les premiers plans, lui a dit un jour Jean Douchet, et c'est vrai. Dès les premiers plans, nous sommes déjà dans le film, la campagne, les femmes au travail, et ce lieu unique, ce corps de ferme, matrice de l'histoire. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
France 1915, les hommes au front, les femmes à l'arrière, et la guerre dans toutes les têtes, c'est le sujet de votre 7e film, Les Gardiennes. Bonjour Xavier Beauvoir.
Bonjour à vous.
Ces images, éclairées magnifiquement par Caroline Champetier, racontent le combat des femmes, labourées, semées, fauchées, gérer cette ferme pour survivre. Certes, il y a Nathalie Baye et Laura Smet à l'affiche de ces gardiennes, mais à côté d'elles, de jeunes et brillants acteurs. Bonjour Iris Brie.
Bonjour.
Vous êtes comme un film dans le film, une lumineuse présence. Rien ne vous destinait à ce métier actrice. Vous avez été découverte à la sortie d'une librairie par une directrice de casting qui, par chance, passait par là. Bienvenue au Club Iris. À vos côtés, celui dont vous tombez amoureuse dans le film. Bonjour Cyril Descours.
Bonjour.
Vous, acteur, c'est une vocation concrétisée dès les années 2000 entre cinéma, théâtre et télé. Vous avez failli devenir maçon ou prothésiste dentaire, mais acteur, vous êtes désormais. Bonjour Nicolas Giraud.
Bonjour.
L'autre fils de Nathalie Baye dans ce film. Les Gardiennes sort mercredi prochain. Merci à tous les quatre de le représenter. Les sorties de ce mercredi dominées par le nouveau Depardon 12 jours et à l'opposé du spectre Coco, la nouvelle production Disney-Pixar, et entre les deux pas mal de voyages. Xavier Beauvois, depuis que vous faites des films, ça fait quand même un bail, hein, 26 ans depuis Nord en 91, vous racontez essentiellement des destins d'hommes, et tout à coup, pas une femme, mais des femmes qui survivent et travaillent comme des hommes. C'est l'idée de faire un film avec des femmes, un film de groupe ou un film finalement sur la résistance?
À la base, j'avais envie de faire un film de guerre,
ouais.
Sur la Deuxième Guerre mondiale, mais ça s'est avéré trop compliqué pour des raisons de langage, surtout.
De langage?
Oui, parce que c'était en moitié en américain, en moitié en français, ouais. Donc c'était très dur à financer. Et puis Sylvie Piala, que j'avais rencontrée depuis un petit moment, avec qui j'avais un très bon feeling, comme on dit, m'avait donné ce livre d'Ernest Perrochon, Les Gardiennes. Et je l'avais pas lu, mais il était à côté de ma table de nuit pendant les années, et suite aux difficultés de production du film sur la Seconde Guerre mondiale, je l'ai lu parce que je me suis dit c'est la guerre, ça m'intéresse, et c'est des femmes. J'avais justement envie de faire un film sur les femmes. Et en plus, ça se passe à la campagne. Moi, j'habite à la campagne. Et donc, il y avait comme une évidence. Et c'est tombé vraiment au bon moment que je lise ce livre à ce moment-là. Et on avait un vieux rêve aussi avec Nathalie et Laura. Nathalie Baye et Laura Smet, de faire un film ensemble. Mais il fallait trouver le bon sujet. Et donc, c'est goupillé formidablement bien, en fait.
Mais vous êtes entouré par des femmes, parce que vous avez une femme productrice, une femme scénariste, une femme chef-op. Et une femme monteuse.
Oui, puis il y a ma script aussi qui est très importante, voilà. Depuis cette film aussi.
Est-ce que c'est un film féministe?
Ah oui, certainement, bien sûr, je pense. Oui.
Ça veut dire quoi? Un film féministe?
Ça veut dire déjà rendre hommage, parce que l'histoire a beaucoup parlé des poilus, des combattants, et puis on a un peu complètement zappé... Appeler les femmes de l'histoire, alors que bon, les gardiennes, elles n'étaient pas que à la campagne, elles étaient aussi en ville. Mmh. Elles ont fabriqué des millions d'obus, de munitions, elles ont conduit des trains, elles ont fait tourner le pays, elles ont, voilà, sans elles, la guerre n'était pas gagnable. Et puis, c'est féministe dans le sens où, après tout ça, on voit aussi que les hommes reviennent, et puis c'est, écoute, maintenant tu vas retourner au fourneau et puis tu vas te taire, quoi. Alors que les femmes ont été quand même assez malignes par rapport aux hommes, notamment dans les investissements. Les hommes sont revenus, bizarrement, leurs terres avaient augmenté, il y avait plus d'hectares, il y avait plus de... elles ont osé acheter des machines, et le film montre cette petite graine qui a été plantée, qui a pas poussé tout de suite, quoi. Le droit de vote, tout ça, c'est arrivé beaucoup plus tard, et le fait d'avoir droit d'avoir un compte en banque aussi, toutes ces choses-là, c'est arrivé beaucoup plus tard, mais bon, ça a commencé là, et on a eu conscience que ça allait être possible.
Ce livre a failli être adapté par Clouzot.
Oui, il a failli être adapté par Clouzot, mais enfin, Perrochon...
L'un des cinéastes les plus misogynes du cinéma français.
Bah ouais, c'est peut-être pour ça, peut-être. Oui. Ouais. C'est parce que Perrochon avait été au front en 14, et il a eu un problème cardiaque, il a été démobilisé, et pendant la guerre 39-45, Clouzot voulait adapter ce livre, mais Perrochon, lui, n'a pas voulu collaborer avec Vichy. Il avait beaucoup de problèmes avec la Gestapo, avec les collaborateurs, et il a caché ça à sa famille, et ça lui a donné beaucoup de stress, et il en est mort aussi. Et je pense que s'il avait accepté, Clouzot aurait fait le film, mais lui, il a refusé complètement.
Et de ce livre, vous avez voulu expurger trop de malheurs, trop de maladies, trop de morts. Finalement, le sujet, et c'est ce qui est le plus difficile à tourner au cinéma, c'est l'attente, c'est le temps.
Oui, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Et puis, l'attente, c'est aussi nous, aussi, on a vraiment attendu vraiment. On a arrêté le tournage pendant plus de 2 mois. Ouais. Et on est passé de 40 degrés à 19h à moins 5 l'hiver. On est allé filmer d'abord les arbres au printemps. On est revenu à l'été. On a eu l'automne, l'hiver. Et le temps, oui, c'est pas évident, même pour les acteurs, de leur dire, bon là, parce que comme on tourne pas dans l'ordre, faut leur dire, là on est en 1916, là on est en 1917 aujourd'hui. Parce qu'il y a des moments où on est totalement dans quelque chose d'optimiste. On se dit, ça va aller vite cette guerre. Et puis après, ça, Verdun, ça dure 300 jours, ça va pas du tout. C'est très pessimiste. Après, l'espoir renaît. Et puis, donc faut à peu près essayer d'expliquer aux acteurs quand est-ce qu'on se situe au moment dans l'histoire. Et puis après, c'est compliqué. Ça se passe entre 1915 et 1920. Et moi, j'ai que 2 heures pour montrer ça. Donc c'est tout un art de l'ellipse et du montage aussi.
Et ben, ça se ressent dans le film. Nicolas Giraud, vous approuviez. C'était compliqué justement de se remettre. D'autant plus compliqué que vous apparaissez un petit peu. Mais surtout, vous devez exister dans cet univers de femmes et exister tout court.
Bah écoutez, je pense qu'un homme, il existe à partir du moment où il cherche pas forcément à être devant tout le monde. Il propose l'attention aux autres. Moi, en tant qu'acteur, je me suis simplement mis dans les bras, si je puis dire, de Xavier Beauvois. C'est un voyage pluriel pour moi parce que il a cette manière de te donner les informations, l'histoire, les émotions. Et moi, c'est tout ce que je demande à un metteur en scène.
Comment il le fait ça?
Avec une extrême délicatesse, il y a de la pudeur, mais bon, on est obligé de communiquer un petit peu, donc faut dire les choses. Mais voilà, Xavier, il est attentif à ta respiration, si je puis dire. Même là, au moment où je vous parle, si ça se trouve, il arrive à entendre comme mon cœur sous ma peau. Et c'est ça, Xavier Beauvois, c'est-à-dire que l'air de rien, il distille sans cesse le flux des uns et des autres. Et pour moi, jusqu'à aujourd'hui, rien que là, de l'écouter encore, il connaît toutes les strates, vous savez, de la période, de la famille, de la terre. Voilà, ce film, moi, je l'aime parce qu'on sent la terre gelée, dure comme un poing. On la sent grasse, qui sent bon au printemps, et ces femmes qui font tout pour qu'elle donne de la vie. Voilà. Et moi, en tant qu'homme, bah, je me suis simplement, j'ai essayé d'être à ma place et tant mieux si Constant porte bien son prénom.
On va vous écouter dans un extrait avec votre mère incarnée par Nathalie Baye pour lui raconter un peu le front.
Personne n'était préparé. Faut pas croire tout ce qu'on vit. On part pour une guerre éclair et depuis 2 ans on vit l'enfer. Dans mon régiment, il y a des gars qui deviennent fous. Bientôt, il faudra un gendarme derrière chaque gars pour y aller.
Si la récolte est bonne, je compte acheter une moissonneuse-lieuse. Mais c'est un peu cher, quand même.
C'est cher, mais c'est un bon investissement. Tu te casseras plus le dos et... et tu gagneras du temps. Le maire m'a dit que je pouvais toucher une indemnité du ministère en la prêtant à 3 autres du village.
C'est bien, maman. C'est une bonne chose. Faut que tu trouves quelqu'un pour t'aider.
Il n'aurait pas fallu envoyer le commis.
Bon, mais Solange, j'avais raison, il fichait rien.
C'est vrai, un peu. Mais ce qu'il faisait, c'était fait. À demi.
Il fallait passer derrière.
Ben, des fois, oui.
Ah, ben, toujours, il fallait repasser. Ah,
pourquoi tu ne demandes pas à Suzanne?
Son fils a été appelé. Il a trop de travail.
Tu peux pas t'installer au Paridier?
Non. Chacun chez soi.
Faut que tu trouves quelqu'un pour t'aider avant les moissons.
Cyril Descours, même émotion que Nicolas par rapport à ce tournage?
Bah oui, c'est pour continuer sur ce que disait Nicolas, c'est vrai que travailler avec Xavier, déjà je sais même pas si on peut appeler ça travailler. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que déjà on fait un métier où quand on travaille ça s'appelle jouer. C'est déjà sympathique, mais là c'était pas jouer en fait, parce que c'était quelque chose d'extrêmement grave. Et du coup dans la relation avec Xavier, ce qui est très fort, c'est que il est à l'image de son film, ou plutôt son film est à son image, dans le sens où c'est quelqu'un qui est assez taiseux, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que il va parler au moment juste pour délivrer l'information nécessaire pour qu'on puisse avancer. Mais surtout, j'ai jamais vu quelqu'un qui a une telle propension à suivre son instinct et sa sensibilité. Et du coup, c'est vrai qu'au début, c'était un peu déstabilisant pour nous, parce que c'est pas du tout la manière habituelle de travailler. C'est pas, bon, on parle avant, on fait des répétitions, des lectures, on se prend la tête sur la psychologie des personnages. Non, c'était vraiment chaque scène, chaque moment du film était vécu. Bon, bien sûr, il y a eu toute une préparation, hein. Il y a eu une énorme préparation en amont, et c'est pour ça aussi que chaque détail, chaque tuile de la maison, chaque grain de blé a été soigneusement étudié au préalable. Mais sur le moment présent, tout se faisait, à tel point que je me souviens très bien de certains jours où on avait une scène à tourner et Xavier prend la page du scénario et puis il la déchire en disant non, on va pas tourner ça. En fait, je le sens pas comme ça. Là, j'ai une idée, on va faire comme ça, en fait.
D'ailleurs, Xavier Beauvoir, c'est vrai que vous sacrifiez facilement des choses. J'avais écouté une interview de votre monteuse qui disait que vous n'aviez pas d'amour pour vos images, que vous pouvez très bien jeter à la poubelle des scènes parce qu'elles ne servaient pas le film.
Oui, c'était une leçon de doucher. Il me dira, le jour où tu auras réalisé le plus beau plan de l'histoire du cinéma et que tu le mettras à la poubelle parce qu'il ne sert pas du tout ton film, là, tu deviendras un cinéaste. Et le scénario, c'est pareil. Moi, mon credo, c'est ce que disait François Truffaut, quoi. Le tournage, c'est la critique du scénario. Et le montage, c'est la critique du tournage. Ouais. Donc, pour moi, le scénario n'est pas du tout une œuvre d'art. C'est un outil de travail. Je suis la météo, mon humeur, les envies de mes acteurs, leur humeur aussi, voilà. Et puis on n'a pas le cerveau dans le même état 6 mois avant que sur le moment. Sur le moment, on est hyper concentré. Moi, j'écoute franchement mon instinct, et des fois, on se rend compte qu'une chose qui était magnifique 6 mois avant, c'est complètement nul sur place. Donc je déchire.
Et c'est votre instinct qui vous dit aussi de choisir des comédiens. Ils entrent, par exemple, souvent c'est arrivé, ils entrent dans la pièce et vous savez tout de suite que ce sont eux.
Ah oui, leur façon de marcher, ou Iris par exemple, j'ai vu les essais, ça m'a pris 10 secondes, j'ai dit oulala, mais qui c'est cette jeune fille, mais c'est pour moi c'était elle, mais franchement 10 secondes, après j'ai regardé la suite évidemment, et j'ai appelé Sylvie Piala, je lui ai dit Sylvie regarde, on t'envoie sur ton ordinateur, elle a dit oula, mais voilà, et ça lui a fait penser à Sandrine Bonnaire, les essais de Sandrine Bonnaire, et c'est vrai qu'il y a une évidence. Vous regardez par exemple 10 secondes de Jean-Pierre Léaud dans les essais de 400 coups. Bon, il y a une évidence aussi. Et là, c'était du même ordre.
Iris Bry, vous sortez de cette librairie. D'ailleurs, vous avez un BEP de libraire.
Un BP,
pardon. Et vous ne pensez pas à ce métier? Ou vous y pensez, ou vous y rêvez quand même un petit peu?
Non, je n'y pensais pas vraiment. Autant quand j'étais petite, j'avais des rêves de carrière de chanteuse lyrique, mais... Mais le cinéma, non. Après, dans la vie de tous les jours, je pense que tout le monde se fait un peu du cinéma et que le cinéma, une de ses fonctions premières, c'est de faire rêver. Mais en tout cas, j'y avais jamais pensé d'une manière concrète.
Et vous êtes passé par cette maison parce que vous avez fait un petit peu la maîtrise, donc vous savez, en plus de jouer, vous savez chanter.
Oui, j'ai fait du chant pendant pas mal d'années, dont 2 ans à la maîtrise Radio France, ouais.
Et c'est comme ça que vous rencontrez votre futur fiancé dans le film, on écoute.
As-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chantent les blés frémissants? Digne homme, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent...
Vous aimez Francine ? Georges. Alors c'est vous le commis le plus efficace du pays ?
Je fais de mon mieux. Il faut que je retourne au paradis, monsieur Georges.
Non, pas monsieur. Georges. Je vous intimide ?
Non. Je retourne au paradis, monsieur Georges. Au revoir, Henri.
À demain, Francine.
Pourquoi vous riez, Cyril ?
Je ris pas. Déjà, je souris parce que je suis. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Et puis c'est vrai que on a parlé beaucoup du travail avec Xavier, mais c'est vrai qu'il n'était pas tout seul quand même à faire ce film. Et c'était aussi incroyable de voir comment il a orchestré toute son équipe. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup. C'est quand des réalisateurs sont fidèles à leurs équipes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu pendant le tournage, des gens qui ont fait 5, 6, 7 films avec Xavier. Enfin, là, c'est le 7e. Mais, et du coup, je souris en entendant cette scène parce que c'est vrai que, avec Iris, il y a eu quelque chose de très naturel qui était là tout de suite. Et c'est vrai qu'on a... On n'a pas spécialement répété ou quoi, mais il y avait une évidence. Tout était très simple. Quoi.
Vous jouez aussi Iris face à Nathalie Baye, c'est quand même quelque chose. Vous n'avez pas prévu de faire ça. Vous vous retrouvez actrice sur le plateau de Beauvois et vous rencontrez Nathalie Baye.
Mais justement, avec Nathalie, on s'est rencontrés les pieds dans la boue pendant les entraînements avec les bœufs. Donc, d'emblée,
ça crée des liens.
Il y avait quelque chose de très simple, effectivement, ouais. Dans cette rencontre. Et Nathalie est quelqu'un de très, très, très sympathique. Donc, ça a été... Et oui, bien sûr, c'était impressionnant. La première scène qu'on a fait ensemble, j'étais très émue. Et j'étais un peu intimidée aussi. Mais en même temps, Francine aussi, elle l'est, de débarquer dans cette famille. Donc, ça tombait plutôt bien. Et puis... ça aide aussi beaucoup d'être en face d'une comédienne comme Nathalie. C'est incroyable. Ça donne des, ça envoie des ondes. Je pense que ça m'a beaucoup aidée.
On parlait pas beaucoup à cette époque-là. Vous dites que Xavier Beauvois très taiseux comme univers. En revanche, on écrivait énormément. Il y a eu des millions de lettres à cette époque où on se déversait ses émotions et ses peurs. Et ça, elles sont très présentes dans le film.
Oui, c'est très étonnant parce que, d'ailleurs, l'État avait engagé 400 000 personnes en plus pour traiter ces millions de lettres. Parce qu'il faut préciser aussi que c'était gratuit, le courrier, évidemment.
Ouais. Dont beaucoup de femmes, du coup,
évidemment,
dans les postes.
Forcément.
Ouais, oui.
Et puis, bon, il y avait aussi beaucoup de colis. On pouvait envoyer des pommes de terre ou n'importe quoi. Et ce qui est très étrange, c'est que les hommes rentraient en permission, soit en ville ou à la campagne, mais ne parlaient pas, quoi. Comme on a connu des parents qui ont fait la guerre d'Algérie, ils n'en parlaient pas, ou ils disaient rien, peut-être par peur de terrifier leur famille. Mais en revanche, au front, bizarrement, là, ils se lâchaient. Ils décrivaient l'horreur, et peut-être parce qu'il y avait cette distance je me suis inspiré beaucoup de ces lettres des soldats et aussi des lettres des soldats allemands parce que c'était exactement les mêmes.
Ouais.
C'était exactement les mêmes lettres.
Des lettres et des carnets. Ils écrivaient beaucoup de carnets, ouais. Hein, au jour le jour.
On va écouter un échange de correspondants justement entre vous, Cyril Descours, et vous, Iris Brie.
« Il ne faut plus prier. Les prières ne nous sauveront pas. Pour se rendre aux premières lignes, c'est très pénible et très dangereux. Un ravin d'un kilomètre environ. Qui sait le nombre d'hommes qu'il y a de tués là-dedans? Parfois, je pense même que Constant est parmi eux. Parmi ces corps décomposés que l'on ne peut plus identifier. Et pourtant, il faut y passer. Il n'y a pas d'autre endroit. Vous me manquez, Francine. Une lettre de vous me ferait du bien. Je reviendrai, je vous le promets, et je vous emmènerai dans mes bois. Attendez-moi, soyez sage. Je vous embrasse fort, ma Francine. Votre poilu, Georges.
Mon cher Georges, comme je souffre de vous sentir si malheureux. Souvent, malgré la fatigue, il m'est impossible de dormir tant j'ai peur pour vous. Je fais de mon mieux pour soulager votre mère. Sa peine est grande, mais nous essayons d'être aussi fortes que vous. Il y avait bien du monde à la messe pour votre frère. Ses élèves ont chanté pour lui. Tout le monde avait le cœur serré. Mardi, j'aurai 21 ans, et je pense que j'ai bien de la chance de travailler dans votre famille. Ainsi, vous ne sortez jamais de mes pensées. J'espère à chaque lettre l'annonce de votre permission. Je me languis de vous revoir. Votre Francine.
On entendait la musique de
certain Michel Legrand.
Michel Legrand. D'ailleurs, les parapluies de Cherbourg, c'est un peu dans votre tête aussi, Xavier Beauvois, par rapport au fait que c'est un film qui parle de la guerre sans la montrer, pareil.
Oui, ça m'avait beaucoup frappé, ça. J'ai trouvé que c'était... Enfin, je suis un fan absolu de Jacques Demy, de toute façon, et de Michel Legrand. Et j'en avais parlé à Michel, je lui ai dit, vous avez fait un magnifique film de guerre. Mais il dit, mais on l'a pas fait exprès. Nous, on avait besoin que ce type soit pas là, soit pas présent. Mais je lui ai dit, oui, mais vous avez quand même fait un film de guerre. Et c'est vrai, c'est... On a quelques bribes de ce qui se passe en Algérie. Voilà, il y a eu un attentat à la grenade, des choses. Puis on le voit revenir après, totalement irascible, alcoolique, il perd son travail. Et puis et avant, on voit l'attente des femmes, qui sont certaines qui tombent enceintes. Enfin, tout ça m'avait vraiment frappé. Ça a germé dans ma tête cette idée de montrer la guerre à l'arrière, probablement grâce à ce film.
En revanche, vous avez montré un film à Iris, c'est La Nuit Américaine, pour lui dire voilà, c'est ça le cinéma en gros.
Bah, je lui ai dit, voilà, je vais montrer le film. Je lui ai dit, ça se passe pas du tout comme ça, un tournage. Et en même temps, je lui ai dit, ça se passe exactement, absolument comme ça. Non, mais c'est un de mes films fétiches aussi, ce film. J'ai une passion particulière pour la nuit américaine, qui est d'ailleurs le premier film de Nathalie Baye. Sur la script.
Ouais.
Vous pouvez penser aussi à un autre film qui est La Maison des Bois de Maurice Pialat, parce que c'est un des rares films français sur, justement, sur une guerre, mais qu'on ne voit pas. Et sur l'arrière, et sur ce que font les gens pendant que d'autres se battent.
Oui, mais ça, j'ai vu il y a très très longtemps, que je n'ai pas revu avant. Je fais exprès de ne pas revoir les films qui correspondent à...
C'était aussi ma question.
Ouais.
Donc pas de film sur la guerre,
si je fais un film policier, je m'abstiens de voir des films policiers pendant tout le...
Toute en préparation.
Ouais, c'est d'avoir une certaine pureté, quoi. Alors, on me donne des DVD, tout ça. Hein. On m'a filé Big Far. Alors ça, mais je ne les regarde pas. Quoi.
Ce film, c'est aussi un hommage à votre grand-père, disiez-vous, ouais.
Bah oui, parce que mon grand-père a été cantonnier et paysan aussi en même temps. Et puis voilà, quelque part, on me l'a fait mépriser un peu, quoi. Que mon père, après, est devenu préparateur en pharmacie, donc il a quitté ce petit village, il est allé dans une ville de 10 000 habitants, donc préparateur, c'est une blouse blanche, bon, ça fait un peu, une ascension sociale, quoi. Et après, on m'a fait croire que mes grands-parents, c'était vraiment des ploucs, quoi. Et c'est plus tard, je me suis rendu compte que c'est peut-être eux qui avaient raison, quoi. Eux, ils avaient pas de poulets bio, ils avaient des poulets normaux, enfin tout, ils avaient un potager. Enfin, maintenant, c'est ce que j'ai moi et j'habite à la campagne. Et c'est Bernard Verlet qui on était venu tourner chez mes grands-parents, qui jouait mon père dans Nord, oui. qui était producteur
grand
du film, qui est tombé amoureux de mon grand-père. Il m'a dit mais regarde, c'est un prince ton grand-père. Donc, il a une stature, une allure. Et j'avais envie de. Puis je vis entouré de paysans moi aussi, donc je. J'avais envie de leur rendre hommage, de montrer qu'ils ont quand même une certaine classe, quoi.
Y en a un vrai dans le film, non?
Oui. Gilbert Bonneau.
Gilbert Bonneau.
Faut citer son nom.
Mais ouais. Il est extraordinaire, c'est-à-dire que il joue lui et pas forcément lui non plus. Il joue quand même un rôle.
Ah, il joue un rôle, oui. Oui, il joue un rôle. Et puis, il était un peu énervé parce qu'on lui a fait pousser la barbe. Ça l'a gratté pendant tout le film. Non, c'est quelqu'un qui allait deux fois à Paris, une fois pour une manifestation paysanne et une autre fois pour voir le médecin des assurances pour le film. Et sinon, il n'a pas bougé d'un rayon de 25 km de sa ferme. Il a travaillé depuis l'âge de 14 ans.
Ouais.
Là, il a eu sa première fiche de paie grâce à mon film de toute sa vie.
Et en fait, on cherchait quelqu'un pour jouer le père de Nathalie Baye. Mais bon, il était trop jeune et je me suis dit, je veux pas laisser passer un cas pareil. Donc je me suis dit, il va jouer le frère. J'ai changé le scénario. Vous voyez, on peut changer, adapter, écouter son film, quoi. Ou par exemple, je savais pas qu'il risque de chanter aussi bien. J'ai découvert plus tard, donc j'ai changé aussi le scénario. J'ai fait chanter plusieurs fois dans le film. Et puis surtout, à la fin, ça m'a donné cette idée-là. On remercie Radio France de l'avoir bien formé.
On va écouter Gilbert Bonneau parce qu'on l'aime beaucoup.
Mais tu cours pas les doigts.
Même deux?
Oui, mais là, une autre. Voilà, je vais avoir assez. Maintenant, on va mettre du vin. Maricot est pas bien loin. Tu sais ce que c'est, le maricot?
Non.
Ah, c'est un petit fût, comme ça. C'est un petit fût. De 50 litres. Les alignons. En plus, il faut. On va le goûter après. Le pain, il boit le vin. Voilà, c'est pas plus compliqué. Faut pas sortir de Saint-Cyr, hein, pour faire du musique.
Oui, Gilbert Bonneau, c'est pas juste une voix. Hein. Moi, il y a une scène que je trouve merveilleuse, incroyable. C'est quand il prend ses mains pleines d'arthrose pour vivre son deuil à sa façon. Mais ça, vous lui donnez l'indication, comment ça se passe?
Ah oui, je donne des indications, bien sûr.
Mais c'est fou comme il ressent, comme on ressent à travers sa peine, à travers ce geste, quoi.
Il avait la photo de... Voilà, de son neveu sous les yeux, dans le journal, il le regardait, et puis il est très intelligent, et donc il suffisait de penser à la mort de son neveu, et puis c'est venu tout seul, ouais. J'ai dit, regarde en l'air, il a un côté anticlérical, il voulait pas aller à l'enterrement, mais il voulait vivre une espèce de deuil à la maison.
Ouais.
Et quand on voit des mains comme ça, ça triche pas, c'est les vraies mains de paysans. Et c'était important de les filmer. Des fois, il peut même pas se lasser les chaussures pendant 3 jours, tellement il a mal. Quoi. Mais il dit, bon, ça attend que ça passe. Quoi.
Vous avez joué avec ça, quoi, en fait.
Bien sûr.
Ouais. Nicolas, Cyril et Iris, c'est quoi la différence entre lui, Gilbert Bonneau, et vous? C'est quoi la différence entre vous?
Gilbert, il a pas pris de cours, déjà.
Moi non plus, très peu. Il n'y a pas de différence.
Une différence d'âge, en fait.
Mais même pas. Moi, je crois justement, j'étais frappé par la vitalité, évidemment, qu'il en a. Mais on a le même âge. Souvent, moi, je rencontre des individus de 70 ans ou de 8 ans. Un jour, je m'engueule avec un ami en lui parlant de son fils et je lui dis, tu vois bien, je m'entends avec lui. Il me regarde et il me dit, mais oui, mais il a 8 ans. Mais non, il n'y a pas d'âge. Gilbert, la seule chose que je peux vous dire, c'était génial. On tournait Nathalie Baye en face, à table. Et l'assistant mise en scène, le premier assistant mise en scène, on attachait une petite corde à la cheville de Gilbert. Et parfois, s'il oubliait de donner la réplique, Arthur, le premier assistant mise en scène, tirait doucement sur la petite corde. Et là, la phrase de Gilbert venait. Mais c'était fascinant. Il n'y a pas de différence, en fait.
Moi, ce qui était impressionnant avec Gilbert, c'est que... Et en même temps, qui était naturel pour lui, c'est qu'il était justement juste vrai, naturel, sans rien forcer. Donc oui, il avait un texte à dire, mais si c'était un autre qui venait, c'était un autre qui venait. Voilà, c'était tout ce qu'on essaye de faire quand on est acteur, c'est-à-dire d'être dans le moment présent, de pas réfléchir et de laisser sortir les choses. Et Gilbert, c'était ça, avec en prime un regard d'enfant.
Ah ouais, c'était beau.
Gilbert Bonneau à l'affiche avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, Cyril Descours et Nicolas Giraud des Gardiennes. Il sort mercredi prochain. On se retrouve pour les... Vous restez avec nous, bien sûr. On se retrouve pour les sorties après Mélanie de Biasio.
How new, dame new, how could you go, twisted, sick, but I'm on the floor. Come rescue me. Tears in blood, but oh how they flow. Reasons bleeding, tell me no more. Get into me. I should have gave the leash to your soul, but now I've lost control. And then you wander aimlessly. For you that freedom's your goal, but I'm telling you, freedom is the end of me.
On va parler, c'est Xavier Beauvoir qui nous fait rire. On va parler des sorties. Alors, on va commencer par 12 jours de Raymond Depardon. Après Sainte Clémente en 82 et Urgence en 88. Voici presque le troisième volet, le sien sur la folie. Depardon qui revient sur une nouvelle loi mise en application depuis 2013. Les patients hospitalisés sans consentement dans les hôpitaux psychiatriques doivent être présentés à un juge des libertés et de la détention avant 12 jours. Grâce à ces juges, la parole autrefois réservée aux seuls psychiatres devient publique. Avec ce film, Depardon reprend son dispositif, plan fixe, pas de voix off et grande force de ses témoignages qui reflètent solitude, paranoïa, violence domestique ou harcèlement.
Oui, moi c'est peut-être le film qui m'avait le plus bouleversé à Cannes cette année parce que au fond, une fois de plus, avec le dispositif habituel, Depardon nous cueille littéralement au cœur, c'est-à-dire que au fond, en nous tendant ce miroir, fait effectivement de dépression, de schizophrénie, de paranoïa. Enfin, je vous évite la liste des maux dont souffrent ces gens qui sont effectivement tous en grande détresse, en grande souffrance par rapport à une société qui ne les voit pas, qui les des exclus qui refusent souvent de les entendre. Et là, nous voyons cette confrontation avec avec nous, c'est-à-dire le juge, c'est nous, évidemment, le regard du juge, qui est souvent, d'ailleurs, il faut le dire, hein, un regard bienveillant. Il n'y a pas de... Moi, je trouve que le regard de Depardon, il est toujours empathique et bienveillant, et pas seulement avec ceux qu'il mérite en premier, c'est-à-dire avec ces gens qui souffrent, mais aussi avec ces juges qui, quelque part, sont dans l'interrogation. Ils vont en moyenne, ils libèrent une personne sur 10 dans ces conditions-là. C'est pas beaucoup, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les 9 autres, les 9 restants, doivent continuer à être surveillés médicalement. Ce reflet de notre société nous fait à la fois beaucoup de bien et beaucoup de mal aussi, parce que Dieu sait si s'ils vont mal, Dieu sait si cette souffrance, elle nous interpelle. C'est pour ça que, à nouveau, le nouveau film de Raymond Depardon, il faut impérativement aller le voir. Ça s'appelle 12 jours.
Xavier Beauvoir, vous voulez dire quelque chose?
Oui, je veux dire que j'ai fait un seul court-métrage, mais ça m'avait été inspiré par une photo de Raymond Depardon, sur San Clemente, justement. Oui. Elle est très connue, c'est un type qui se cache comme ça, la tête. Je crois que ça s'appelle La maladie du manchon. Cette photo m'avait bouleversé, ça m'avait donné l'idée du film après. C'est pas non plus une réussite formidable, le film, mais...
mais Depardon est inspirant.
Voilà, exactement.
Le bonhomme de neige de Thomas Alfredson, l'auteur du génial Morse et du passionnant La Taupe.
Que s'est-il passé?
Qui adapte un grand auteur norvégien, Jo Nesbø, et son bonhomme de neige, une enquête tortueuse de son héros, l'inspecteur Harry Hall. Il traque un tueur sadique qui démembre des mères de famille. Le problème, ce n'est pas la réalisation d'Alfredson, c'est la production du film. C'est un film de commande. Faute de préparation suffisante, il n'a pas bouclé le scénario de cette tortueuse histoire, pleine de ramifications dont on ne comprend pas les enjeux, puisque des scènes explicatives et clés n'ont pas été tournées. C'est complètement dingue pour un polar. Ce n'est pas non plus la faute de Michael Fassbender, qui fait de son mieux, mais qui a débarqué dans cette histoire 2 jours avant le début du tournage. Bref, c'est la grosse boulette de Noël, presque une catastrophe industrielle, ou comment détruire une adaptation. Un conseil, lisez plutôt le livre de Jo Nesbø.
J'approuve.
Vienne avant la nuit, de Robert Bober, documentariste, écrivain, prix du livre Inter en 94. Amit Perek, ancien assistant de Truffaut, entre autres mille choses. Bober, né en 31 à Berlin de parents juifs polonais, s'est réfugié avec sa famille en France en 33 et revient donc à 86 ans sur son arrière-grand-père parti de Pologne. Il s'appelait Wolf Lieb Frankel, pour s'installer à Vienne, celle de Zweig et d'Arthur Schnitzer, avant la nuit, avant donc la montée du national-socialisme, Laurent.
Oui, et Bober, c'est un enfant réchappé de la rafle du Valdiv. Donc il sait de quoi il parle quand il revient sur ces années-là. C'est, vous disiez, un autodidacte devenu entre autres tailleur, entre autres choses. Et puis cette enquête sur un arrière-grand-père à la longue, longue barbe blanche. On a l'impression d'une photo qu'on connaîtrait comme ça de tout temps. Et avec cette référence à Schnitzer sur Vienne au crépuscule, et bien cette enquête sur la Vienne à la fois philosémite et antisémite, celle qui devient antisémite, avec notamment des visions incroyables de ce cimetière juif traversé par des biches sous la neige tombante. Ce sont des visions cinématographique très belle, ce qui fait que de ce documentaire, pas seulement une enquête, pas seulement une récréation, mais aussi un vrai film de cinéma, avec des tas de références littéraires, des tas de références artistiques. Cette espèce de devoir de mémoire interne qui est partagé par Robert Bober et qui nous fait vivre est d'une extrêmement émouvant. Je rappelle le titre du film, ça s'appelle « Vienne avant la nuit ».
Plongée, de Mélanie Laurent, adaptée du livre de Christophe Onodi Bio. C'est l'histoire d'un amour total entre César et Passe. On s'en rend compte, le film nous le prouve pendant 15 minutes en multipliant les scènes séduction, amour, cliché à l'eau de rose. Il s'installe, elle attend un enfant, rencontre des altermondialistes écolo bobo, décide d'installer un instrument pour écouter un requin qu'elle adopte et part le rejoindre, et lui, très triste, part à sa recherche. C'est, paraît-il, un film qui mêle passion amoureuse et élan écologique. C'est surtout un film prétentieux, inepte, sans enjeu et très ennuyeux. Vous l'avez vu, Laurent?
C'est avec Gilles Lelouch aussi.
Oui.
Vous avez oublié de le dire, c'est pas un des atouts du film. On a presque envie de dire plonger ou ne pas aller au cinéma.
The Long Excuse, de la japonaise Miwa Nishikawa. L'histoire d'un écrivain et d'un chauffeur routier qui perdent leur femme dans un accident. Le chauffeur est inconsolable, pas l'écrivain qui feint l'affliction, mais qui va peu à peu s'ouvrir à la compassion et à l'altérité.
Mais c'est un très beau point de départ, parce que effectivement, ça parle de deux vifs qui ont perdu leurs épouses. Donc ça fait deux fantômes, là, pendant tout le film, qui traversent tout le film, deux fantômes de femmes, deux fantômes nombre d'épouses et puis deux maris qui essayent justement effectivement d'être bien vivants. Alors cette situation de départ qui dure longtemps dans le film est la plus intéressante, c'est là où la délicatesse et la complexité de la réalisatrice se font jour. On pourrait craindre d'être chez Madame Kawase. Fort heureusement, on est chez Kore-eda, donc tout va bien, c'est-à-dire avec beaucoup plus de sensibilité, enfin en tous les cas à mon sens. Il y a juste une petite réserve éventuellement sur le basculement du film, effectivement, où comme vous le disiez, le personnage devient un peu autre chose de ce qu'il était au départ, mais c'est pas très grave au regard de la sensibilité et de la délicatesse de l'ensemble. Ça s'appelle The Long Excuse.
Coco, la nouvelle production Disney-Pixar, signée Lee Unkrich et Adrian Molina. L'histoire d'un petit Mexicain, Miguel, dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Mais sa famille, depuis plusieurs générations, a banni la musique à cause d'un ancêtre qui a quitté femme et fille pour assouvir sa passion. Par un drôle de concours de circonstances, Miguel va se trouver propulsé au pays des morts le jour de leur célébration, et ce voyage lui révélera la véritable histoire de sa famille. Un très émouvant voyage initiatique qui célèbre la famille, la notion d'héritage, tout en nous entraînant dans une culture qui ritualise la mort à travers cet éloge de la culture mexicaine. C'est presque, on peut le dire, un film anti-Trump. Merveilleusement illustré, réalisé, coloré, inventif, et qui fera résonner tout le monde, petit et grand. J'avais peur de la version française, mais elle est très réussie.
C'est un film extrêmement gonflé, faut le dire, parce que c'est un film pour les enfants sur la mort. Et
c'est ça à partir de quel âge?
C'est génial. Je suis très heureux que vous aimiez comme ça ce film, je le trouve... J'ai retrouvé tout ce que j'attendais quand j'étais petit.
Voilà.
C'est formidable.
Voilà. Alors à partir de quel âge, disiez-vous, si je ne sais pas, moi j'ai beaucoup de mal à dire ça.
Vous savez, hein, je suis connecté à 8 ans, donc on va dire.
À partir de même peut-être avant. Enfin,
mais oui.
Beauté. Il y a pas d'images qui font peur, quoi. Hein. C'est une image de la mort à la mexicaine, c'est-à-dire c'est une image joyeuse, quoi.
Oui, et la mort est lumineuse.
C'est la mort joyeuse. C'est le rendez-vous de la mort joyeuse, comme disait l'autre. Voilà.
C'est fantastique. Ouais. Je suis heureux de. Vous savez, les blockbusters, quand ils ont tous les étages comme ça, chacun il trouve son compte.
Exactement.
C'est fort.
Vraie intelligence.
De toute façon, dès que ça parle de Coco, ça t'intéresse, toi.
C'est Xavier Beauvois. Bon, allez, passons à l'autre film, s'il vous plaît.
La promesse de Terry George, du producteur réalisateur irlandais, donc. Réalisateur, entre autres, de Hotel Rwanda, un film hollywoodien sur le génocide arménien. Est-ce possible?
Oh là là, oui, mais la promesse, comme son nom l'indique pas. En fait, il paraît que c'est un milliardaire américain d'origine arménienne qui a commandé un film. Faut pas faire ça. Faut pas commander une super production. Non, c'est vrai. C'est complètement fou. C'est une sorte de trio amoureux. Imaginez-vous à la Jules et Jim sur fond de génocide arménien. Mais on se dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir une idée pareille, quoi? C'est pas possible. Donc jusqu'au bout, c'est une catastrophe.
D'accord. Éditeur, le deuxième film du grand éditeur Paul Ochakowski, Laurence, qui tente à travers ce petit objet, comment l'appeler autrement, de répondre à ces questions. Pourquoi les uns écrivent? Pourquoi les autres les éditent? Qu'est-ce qui pousse les uns à confier le plus cher d'eux-mêmes à d'autres? Qu'est-ce que ça veut dire éditer des livres ou en refuser? Belle question, difficile à résoudre en images. Alors plutôt que de choisir une forme académique classique avec des entretiens, POL tente la mise en scène baroque avec tentative de micro-fiction, lui-même se fait représenter par une poupée en chiffon. Résultat, un objet assez arty et snob, Laurent, non?
Ben, je trouve aussi, on a du mal à dire du mal de POL.
Hein, pourquoi qui on a
est
du mal?
Ben, parce que c'est un éditeur très très intéressant. Sur le film, non, mais voilà, moi, le point de départ, c'est ça, c'est qu'on regrette de devoir dire du mal, parce que vraiment, c'est un des grands éditeurs français. Et qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère? Alors, il s'est mis lui-même dans sa propre galère, parce qu'il se met en scène. C'est très très dommage, ça n'a pas beaucoup d'intérêt fondamentalement, sauf une sorte d'égocentrisme malvenu.
Ray, l'histoire du français qui voulait devenir roi de Patagonie. En 1858, un avocat français hors lit, Antoine de Tounens, débarque sur les côtes chiliennes avec l'intention de réunir les tribus indiennes persécutées pour créer avec elles un État.
Oui, dites donc, c'est pas un scénario de Werner Herzog, ça, si, un peu, évidemment, oui, ça ressemble, quoi, c'est dommage, seulement. Oui, mais quelle histoire, quel point de départ, quel scénario formidable, effectivement, on sait déjà ce que Herzog en a fait, c'est-à-dire un chef-d'œuvre, Aguirre notamment. On voit même ce que, je vais vous faire plaisir, Christine Jodorowsky en aurait fait, c'est clair. Mais oui, ça aurait été un grand film baroque sur quelque chose qui ne se passe pas, sur un rêve fou, un rêve foudroyé, un rêve fracassé. Non, c'est dommage, il y a beaucoup trop de musique, il y a beaucoup trop de cinéma mal fagoté, ça ne tourne pas, du tout.
Spécial dédicace dédicace à Nicolas Giraud. On va terminer par les Moumines Satan de Noël. Mais c'est pour les moins de 8 ans. Hein. C'est des C'est des petites créatures finlandaises inspirées des trolls qui ressemblent à des hippopotames habillés en feutrine, en gros.
Ah oui, ça pourrait être ça, le pitch. Voilà. Ça donne envie, hein, Nicolas. Franchement,
Non,
je suis sûr que ça vous plaira.
Voilà. Non, Nicolas vient de réaliser son premier film,
D'accord.
Ah, merci Xavier.
En salle en janvier, février.
Le 11 avril.
D'accord. 11 avril, n'importe quoi.
Ça s'appelle du salon. Ouais, mon premier long métrage. Ça s'appelle Du soleil dans mes yeux.
Avec qui?
Avec Hélène Vincent, Clara Ponceau, un petit garçon, justement, de 7 ans et demi.
Pour moi.
Mais qui joue 8 ans.
Bon.
Et je joue dedans aussi. Pardon. Et Patrick Descamps aussi.
D'accord. On va vite pour les cadeaux là.
Oui,
on a très, très peu de temps.
Pour vous, Iris, Jeannette, le film de Bruno Dumont, parce que toutes les actrices rêvent d'être Jeanne d'Arc, évidemment, un jour dans leur vie, c'est sûr.
Ah, merci, je ne l'ai pas vu.
Bon, bravo. Pour vous, Xavier Beauvois, Viens avant la nuit, le livre reflet du beau film de Robert Bobert, franchement. Pour merci vous, Cyril, beaucoup. Allez, un de vos collègues, on a décidé de vous offrir des livres d'acteurs. Michel Blanc sur Un malentendu,
qui est en plein montage en ce moment.
Hors collection.
Merci.
Voilà, c'est pour vous. Et puis, dernier, Jean, pour vous, Nicolas, Jean Rochefort, monsieur Jean Rochefort, la très belle bio qui vient de lui consacrer Jean-Philippe Guérand. Voilà, tout ça sont des cadeaux pour vous. C'est aussi des cadeaux qu'on recommande de faire à nos auditeurs en cette période de fête, évidemment.
Merci Xavier Beauvois, merci Nicolas Giraud, merci Cyril Descours,
merci
Iris Sebris,
merci à tous les quatre.
Tous les quatre auteurs et acteurs de ce film Les Gardiennes qui sort mercredi prochain. Et maintenant, on vous attend de pied ferme pour le générique.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
Jean-Luc.
C'est une émission réalisée par Anne Weilfeld. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Xavier Beauvois, j'y étais.
Et moi, Nicolas Giraud, j'y étais.
Et moi, Iris Brie, j'y étais.
Et moi, Cyril Descours, j'y étais.
Merci Kevin Pelot d'avoir été aux manettes aujourd'hui. Dans quelques minutes, vous serez avec Jean-Claude Amezen et en plus sur les épaules de Darwin. Mais pour l'instant, il est 11h sur Inter.